Bien, je vous propose de commencer le séminaire et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir mon ancienne thésarde, Véronique Izard, qui est devenue une des chercheuses internationalement les plus réputées dans ce domaine dont elle va nous parler aujourd'hui, qui est l'intuition mathématique des très jeunes enfants. Je vais laisser parler Véronique, elle va vous expliquer elle-même son sujet de recherche. Juste mentionner que Véronique a une trajectoire intéressante. Je me souviens très bien du moment où tu es venue dans le laboratoire pour me dire je suis musicienne, j'ai envie d'étudier la musique. Et effectivement, je peux confirmer que Véronique est une grande musicienne qui pratique 3 ou 4 instruments, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Mais j'avais dû juger à l'époque qu'on n'était pas équipé au laboratoire pour faire des études approfondies de la musique et qu'au contraire, on pouvait étudier les représentations mathématiques et notamment, évidemment, on était très engagé dans des études de la représentation du nombre. Alors Véronique a pris ses problèmes à bras-le-corps et nous avons donc énormément travaillé ensemble, également avec Elisabeth Spelke de l'Université de Harvard, pour étudier l'organisation des représentations des nombres dans le cerveau humain et aussi la psychologie spontanée du nombre chez les Indiens d'Amazonie, des études dont on a déjà parlé ici au Collège de France. Et par la suite, Véronique s'est orientée de plus en plus vers les études du très jeune enfant, avec cette question importante qui est de savoir à quel moment les jeunes enfants disposent de compétences mathématiques ou proto-mathématiques. C'est donc tout naturellement qu'elle a fait les premières expériences au laboratoire, en collaboration avec Ghislaine Dehaene-Lamberts, et ensuite à Harvard, où elle a passé 5 années, je crois, de post-doc, 4 années, 5 années. 4,5, voilà la précision numérique de postdoc à Harvard avec Elisabeth Spelke dans l'un des meilleurs laboratoires donc de psychologie de l'enseignement, de l'éducation et du nourrisson, du jeune enfant. Donc voilà, sans plus tarder, donc maintenant Véronique est chercheuse permanente au CNRS à Paris, elle dirige une équipe qui s'engage maintenant dans cette direction de la connaissance implicite, non seulement du nombre, mais aussi de la géométrie, devenue un grand objet d'étude nouveau, et elle est récipiendaire d'un des prestigieux financements de l'Europe, qui s'appelle le ERC, le European Research Council, qui lui permet de monter une équipe maintenant autour de ces questions, donc de proto-mathématiques, d'intuition mathématique, du bébé jusqu'à l'adulte, le titre de son exposé d'aujourd'hui. Merci Véronique d'avoir accepté mon invitation.
Eh bien, merci Stanislas de m'avoir invité pour cette introduction presque embarrassante. C'est un honneur évidemment de pouvoir parler dans ce séminaire au milieu de tous ces grands noms de la psychologie du développement. Donc aujourd'hui, après le langage, après l'olfaction et les visages, je vais parler de ce domaine, les mathématiques, qui est peut-être moins spontanément associé au bébé. Et ceux qui ont suivi le cours de Stanislas sur les nombres le savent déjà peut-être. En fait, même si les mathématiques sont une discipline qui est difficile, qui est apprise à l'école de manière formelle, on a pu montrer qu'il existe une certaine forme d'intuition pour les mathématiques, proto-mathématiques, qui est présente pendant toute la vie, donc à l'âge adulte, mais déjà chez le bébé. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai pensé vous présenter d'abord une expérience qu'on a réalisée au laboratoire. Vous avez ici, il manque la gauche. Hop. Je vais parler comme ça, ce sera mieux. Vous avez ici donc la pièce, notre salle d'observation. Qui se situe vraiment au cœur de la maternité Bichat à Paris. Donc pour nous, c'est vraiment une grande chance parce que ça nous permet d'observer des bébés qui viennent tout juste de naître de quelques heures ou même quelques jours. Donc le bébé arrive dans notre salle d'observation. Il est installé sur ce petit siège incliné ici, face à un écran, là, où on va lui présenter des stimuli. Et pendant que les bébés observent les stimuli, on va le filmer avec une caméra qui est ici, qui prend donc une vue un petit peu en plongée du bébé. Vous avez ici une image qu'on a obtenue avec cette caméra. Vous voyez ce nouveau-né, cette petite fille âgée de 30 heures à peine. Il faut imaginer que l'écran se situe juste en dessous de la caméra. Donc elle a le regard ici qui est accroché par les stimuli qui se trouvent sur la caméra. Et alors, ce que je vous propose, c'est d'imaginer maintenant que vous êtes un nouveau-né sur ce petit siège, et je vais vous montrer les stimuli qu'on leur présente. Alors voilà.
Ra, 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 ra. Go, 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 go. G, 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 g. Ra, 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 ra. Two, 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 two. Di, 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 di. Two, 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 two. Di, 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 di.
Bon, je vais peut-être pas passer le J'essaie d'accélérer un petit peu les choses normalement pour un nouveau-né. En fait, on a d'abord une phase avec le son seulement qui dure 2 minutes, en fait, donc qui lui permet, lui, de s'acclimater à ces sons qu'il est en train d'entendre. Vous avez peut-être remarqué que tous les sons, c'était des séquences qui comportaient exactement 4 syllabes. Et ensuite, on va présenter au nouveau-né différentes images qui comportent soit 4 objets, comme cette image qu'on voit ici, soit un nombre différent d'objets. Donc, il y en avait 12 juste avant. Alors, pourquoi on fait ça? On a ici 2 stimuli qui sont de formats très différents. D'une part, des stimuli auditifs, des séquences, et d'autre part, des stimuli visuels, des images avec un certain nombre d'objets. Et on essaye, ces stimuli n'ont pas grand-chose à voir en commun, si ce n'est le nombre, dans certains cas. Et ce qu'on essaye de voir, c'est si le nouveau-né est capable de détecter ces correspondances numériques entre ces stimuli visuels et ces stimuli auditifs. Et en faisant ça, on recherche ces fameuses sources intuitives de la pensée mathématique dont je vous ai parlé au début. Donc, essayer de savoir s'il existe des systèmes de représentation qui ont un contenu mathématique et qui sont présentes dans le cerveau indépendamment d'un apprentissage formel des mathématiques. Et ici, par contenu mathématique, c'est important. Et, en fait, j'entends 2 choses. D'abord, le fait que ces représentations encodent des aspects du nom du monde qui ont été formalisés par les mathématiques. Donc ici, je vous ai montré un exemple sur le nombre. Je vous montrerai 2 exemples sur la géométrie. Et non seulement que ces représentations encodent ces aspects du monde, mais qu'elles le fassent de manière abstraite, c'est-à-dire sans s'occuper d'autres aspects des stimuli qui ne sont pas pertinents pour les mathématiques. Donc ici, on cherche une représentation du nombre qui ne s'occupe pas du fait que de la modalité, donc modalité usuelle ou auditive, qui ne s'occupe pas de la taille des objets et d'autres aspects comme ça, ou du matériau pour la géométrie. Donc ça, c'est un premier point. Mais un deuxième point, on parle ici d'intuition. Donc ce que ça suggère, c'est qu'on cherche aussi des représentations qui permettent de réaliser des inférences de type mathématique, inférences qui suivent les lois et les théorèmes des mathématiques. Donc pour le nombre, ça va être par exemple la possibilité de réaliser des opérations comme l'addition ou la soustraction. Alors, ce sont des inférences qui, bien sûr, ne vont pas être nécessairement conscientes. Et le sujet n'aura pas nécessairement non plus conscience de ce qui justifie son raisonnement. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça des intuitions. Donc, alors, maintenant que je vous ai expliqué pourquoi on faisait tout ça, je reprends mon expérience sur les nouveau-nés. Donc, pour vous rappeler les stimuli, on avait d'abord cette phase de familiarisation avec des sons seulement. Et alors, 2 groupes de bébés. Le premier groupe de bébés entend des sons, des séquences avec 4 sons, comme ce que vous avez entendu. Un deuxième groupe de bébés entend des séquences avec 12 sons. Et au bout d'un certain temps, on commence à faire apparaître des images sur l'écran qui vont comporter soit 4, soit 12 objets. Et on regarde le temps de regard du bébé pour ces différentes images. Alors, voici ce qu'on a obtenu. Pour ici, le groupe de bébés qui a été familiarisé avec les séquences de 4 sons, vous voyez qu'il regarde beaucoup plus longtemps quand on lui présente une image qui comporte 4 images, 4 objets, et puis par rapport à une image qui comporte 12 objets. Et à l'inverse, pour le groupe de bébés qui a été familiarisé avec 12 sons, ce comportement se renverse en fait. Donc ces bébés-là regardent beaucoup plus longtemps quand ils voient 12 objets que que quand ils voient quatre objets. Donc les bébés ont réussi à détecter ces correspondances numériques entre des stimuli auditifs séquentiels d'une part et des stimuli qui n'ont pas grand-chose à voir, des stimuli visuels. Donc une représentation du nombre qui est assez abstraite ici. Alors pour caractériser un petit peu plus cette représentation du nombre, on a essayé en fait l'expérience avec différentes valeurs numériques. Je vous ai parlé d'abord de ce contraste entre 4 et 12. On a vu que les nouveau-nés sont capables de faire la discrimination. On a testé aussi, également un autre contraste ici avec des nombres un peu plus grands, mais qui gardent le même rapport multiplicatif, donc un ratio de 3 pour 1 ici. Même si les nombres sont plus grands, ici, les nouveau-nés sont toujours capables de faire la discrimination, donc avec le même tableau de résultats, ce genre d'interaction qu'on obtient ici. Et enfin, on a essayé avec une autre paire de nombres, ici toujours avec 4, mais avec un nombre qui est plus proche de 4. Et là, il se trouve que la situation est beaucoup plus difficile pour les nouveau-nés. On a une petite tendance, mais rien de très significatif. Donc ça illustre en fait un aspect important de cette représentation du nombre, qui est ce qu'on appelle l'effet distance, le fait que ces représentations soient approximatives. Donc le nouveau-né est capable de discriminer des quantités qui sont très éloignées les unes des autres, mais dès qu'on se rapproche trop, en fait, tout ça devient beaucoup plus flou. Alors, ce que je vous ai dit, c'est qu'on s'intéresse non seulement à la représentation, à la capacité de percevoir des nombres, mais aussi à la capacité de réaliser des inférences sur les nombres. Donc, je vais vous présenter ici un certain nombre d'expériences qui ont montré que les bébés sont sensibles, sont capables d'inférer certaines propriétés du nombre. Alors, la première propriété à laquelle on peut penser, c'est la relation d'ordre, le fait que non seulement les nombres peuvent être égaux ou inégaux, mais ils peuvent être plus grands ou plus petits les uns que les autres. Alors voici une expérience qui a été réalisée avec une équipe, avec Lola Devia, où ce qu'on fait, c'est donc un paradigme d'habituation. On présente ces séquences au bébé. Alors vous voyez, ce sont des séquences où à chaque fois, le nombre d'objets augmente. Puis on passe à une autre séquence, et puis à nouveau, le nombre d'objets se met à augmenter. Alors donc ça, c'était un premier groupe de bébés. Il y a aussi un deuxième groupe de bébés, bien sûr, qui voient des nombres en train de diminuer. Et ensuite, ils ont testé la généralisation des bébés à d'autres images, à d'autres valeurs numériques, mais avec soit cette relation, cette séquence ascendante, soit une séquence descendante. Et les bébés ont été capables de généraliser ici. Vous voyez qu'ici, encore, il y a un aspect recherche de l'abstraction du nombre par rapport à d'autres paramètres des stimuli. Parce qu'ici, dans la phase d'habituation, on avait des stimuli qui avaient tous la même taille et qui augmentaient en densité au fur et à mesure. Et dans la phase de test, ce qui est important ici, c'est que les densités sont constantes. Donc si le bébé répond sur la densité, évidemment, il ne verra pas la différence entre ça et ça. Mais ce qui est important, c'est que comme il a répondu en fait, en se basant sur les nombres, il a réussi à généraliser entre ces deux types de stimuli. Donc ici, la relation d'ordre. Les chercheurs ont également testé d'autres opérations de plus en plus complexes. Ici, une opération d'addition et de soustraction. C'est une expérience qui est due à Colin McCrink. Ils ont en fait passé des petits films au bébé, comme ceci. Donc vous voyez 5 objets qui vont se cacher, voilà, derrière un écran. 5 autres objets se cachent aussi derrière l'écran. Et l'écran s'abaisse et révèle 10 objets. Vous voyez qu'ici, encore, il y a tout un contrôle savant sur les paramètres non numériques. Les objets changent de forme pour vous montrer que leur taille, leur forme n'est pas un paramètre important. Ici, ce à quoi il faut faire attention, c'est le nombre. Donc, on présentait au bébé soit ce type de ce film qui se terminait de cette façon, ou alors exactement le même film, mais qui se termine de cette façon, d'une façon qui est mathématiquement incorrecte. Et ce que Colin McCrink et Karen Wynne ont vu, et que les bébés ont exprimé une réaction de surprise quand il y avait un film comme ça qui se terminait de manière incorrecte. Alors, au-delà de l'addition et la soustraction, Colin McCrink, dans une autre expérience, a également montré que les bébés sont sensibles, sont capables de réaliser des opérations multiplicatives, issues d'une expérience sur le ratio. Dans les premiers stimuli, vous voyez ici, vous avez des objets bleus, des objets jaunes. Le nombre absolue d'objets bleus, d'objets jaunes varie, mais il y a une constante dans tous ces stimuli qui est qu'il y a toujours deux fois plus d'objets bleus que d'objets jaunes. Et ils ont montré qu'à 6 mois, le bébé est capable de discriminer ce genre de stimuli avec des nombres qui varient par rapport à d'autres stimuli comme ceci, où, encore une fois, les nombres varient, mais 7 fois, le ratio est de 4 pour 1, 4 fois plus d'objets bleus que d'objets jaunes. Donc ici, une opération de type multiplicatif. Voilà, donc dès la première année de vie, les nourrissons sont sensibles à la numérosité et ils sont capables de réaliser des opérations sur la numérosité. Et je vous ai montré ces 3 opérations à titre d'exemple. La relation d'ordre, capacité d'effectuer des opérations additives, addition-soustraction, et aussi des opérations de type multiplicatif. Alors, ces intuitions pour les nombres se retrouvent en fait jusqu'à l'âge adulte. Et voici ici, par exemple, une expérience qu'on peut réaliser avec des adultes, qui a été réalisée par Manuela Piazza. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a 3 stimuli, donc des nuages de points, qui sont présentés de manière très rapide, en sorte que la personne ne peut pas les compter. Et les 3 premiers contiennent tous 16 points. Et bon, on informe le sujet de ça. Et ensuite, on va tester le sujet avec un 4e stimuli qui va contenir un nombre différent de points, entre 8 et 32 points. Et on demande tout simplement à la personne de dire s'il pense qu'il y avait plus de points dans la dernière image ou moins de points dans la dernière image par rapport à ces images de référence. Quand on fait ce genre d'étude, on obtient une courbe comme celle-ci. Ici, le pourcentage de fois où le sujet a répondu qu'il y avait plus de points dans la cible par rapport à la référence. Vous voyez que quand on utilise des nombres qui sont très éloignés de 16, comme ici 32, les sujets se trompent rarement. De la même façon, quand on utilise des nombres tout petits, 8 ici, ils sont assez sûrs que la réponse est qu'il y a moins de points dans l'image test. Mais plus on se rapproche, on a cet effet de distance ici, puisque plus on se rapproche de la numérosité de référence, plus les sujets hésitent et se trompent fréquemment. Et en fait, le paramètre important de ce type de courbe, c'est la pente ici, la pente qui nous donne la sensibilité du sujet pour les représentations numériques. Et donc c'est un test qu'on peut faire de manière individuelle où on peut, de manière individuelle, mesurer la précision de la perception des nombres. Donc ici, on a cette pente qui est traduite dans notre jargon et dans nos modèles par un paramètre qu'on appelle W, la fraction de Weber. C'est un paramètre qui mesure l'imprécision des représentations avec une valeur qui est celle-ci chez l'adulte occidental. Donc en faisant ces mesures individuelles de la précision des représentations des nombres, on peut examiner ce système de représentation qui est continu dans la vie, donc présent du bébé à l'âge adulte, mais examiner comment il évolue au cours des âges. Et on a rapporté 2 choses. D'abord, ce paramètre, donc l'imprécision, diminue au cours des âges. C'est-à-dire que les représentations, les perceptions deviennent de plus en plus précises. Alors évidemment, ça pose des questions de savoir quels sont les facteurs en fait qui donnent lieu à ce raffinement des représentations avec l'âge. Est-ce qu'il s'agit d'une simple maturation cérébrale ? Quel peut être le rôle de l'expérience, par exemple, dans ce raffinement ? Et en particulier, est-ce que l'expérience avec les mathématiques formelles peut jouer un rôle dans ce phénomène de raffinement ? Et il semble qu'il pourrait en jouer un, parce qu'il a été également rapporté qu'il existe une corrélation entre ces mesures individuelles de W et la réussite en maths à l'école. C'est quelque chose qui a été rapporté chez des enfants d'âge très variés, dès le CP et jusqu'au collège. Et évidemment, ce genre de résultat pose la question du sens de causalité. Donc, est-ce que ça veut dire que les enfants qui sont partis avec un système de perception des nombres plus précis ont eu ensuite plus de facilité pour apprendre les maths à l'école ? Ou est-ce que ça veut dire, en revanche, à l'inverse, que les enfants qui ont mieux appris les maths à l'école pour une raison ou pour une autre, ensuite, ont répercuté cet apprentissage des maths sur leur perception des nombres, sur leur représentation des nombres, et que cette perception est devenue plus précise. C'est une question qui, je pense, est ouverte aujourd'hui. Alors, la question de l'impact des mathématiques formelles et des systèmes formels, en général, de représentation des nombres sur cette perception, on peut l'étudier également en s'intéressant à des cultures différentes. Et donc, avec Pierre Picat, qui est linguiste au CNRS, on s'est intéressé à cette culture, une culture d'Amazonie, les Munduruku, qui nous ont intéressés parce qu'ils ont un vocabulaire pour les nombres qui est plus restreint que le nôtre. Donc ici, c'est le premier, tout premier test qu'on a réalisé avec eux pour justement sonder ce vocabulaire. Test tout simple où on leur présentait des images qui contenaient entre 1 et 15 points. Et on leur demandait simplement de nommer ces images dans la langue Munduruku. Et vous voyez que quand on fait ça, on a vu qu'il existait des nombres, des mots stables pour désigner les quantités 1, 2, 3, 4. Donc ici, la courbe blanc, le mot pengma s'applique à un objet et plus trop quand on a plus d'un objet. Pareil, un mot pour 2, 3, 4. Il y a ici en rouge un mot qui correspond plus ou moins à la quantité 5, mais peut-être de manière plus approximative, parce que ce mot peut être donné pour des quantités qui vont ici jusqu'à 12. Mais au-delà de 5, on n'avait pas d'accord entre tous les locuteurs de Munduruku. C'est-à-dire que certains allaient utiliser des expressions idiosyncratiques, mais ce qu'on voyait le plus fréquemment, en fait, c'est que les personnes utilisaient des adverbes imprécis, approximatifs, comme des mots qui voulaient dire quelques-uns ou beaucoup. Donc on peut se demander si les Munduruku n'ont pas de mots dans leur vocabulaire pour exprimer les quantités au-delà de 5. Est-ce qu'ils sont néanmoins capables de percevoir les quantités au-delà de 5? Alors on a réalisé plusieurs tâches avec eux. Ici, une tâche de comparaison qui est analogue à la tâche que je vous ai montrée avant. Tout simplement, on leur présente deux nuages de points, on leur demande où est-ce qu'il y en a le plus. Ici, une tâche un peu plus complexe, d'addition mentale et de comparaison. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un premier nuage de points qui tombe dans cette boîte de conserve ici. Ensuite, on voit un deuxième nuage de points qui tombe et s'additionne au premier. Donc le sujet doit faire une addition mentale sur ces deux nuages. Et on lui donne un troisième nuage de points qui lui reste à côté de la boîte. Et la question, évidemment, c'est est-ce qu'il y a plus de points dans la boîte ou à côté de la boîte ? Alors, dans les deux cas, dans ces deux tâches, on a fait varier le ratio entre les deux quantités à comparer pour changer le niveau de difficulté de la tâche. Et alors, les données qu'on obtient, ici en noir, les Munduruku, et en bleu, un groupe de contrôle français d'âge un petit peu équivalent, vous voyez que quand on a des ratios qui sont très élevés ici, pour les deux groupes, la tâche est assez facile, et puis apparaît cet effet de distance, à savoir que plus les ratios se rapprochent de 1, plus la tâche devient difficile. Et ici, vous avez à la fois les symboles, les petits ronds, les petits triangles, sont les données expérimentales, et le tracé, en fait, vient d'un modèle de la représentation des numérosités qui a été développé à la base sur des données d'adultes occidentales et qui s'adapte aussi très, très bien aux données des Munduruku. Donc ici, même si leur lexique ne leur permet pas de dénommer ces quantités, les Munduruku sont tout à fait capables de percevoir et de réaliser des calculs sur ces quantités qui sont situées au-delà de leur lexique numérique. Alors plus récemment, on a voulu aller plus loin avec les Munduruku parce que je vous ai parlé de ce test qui permettait de mesurer de manière fine et individuelle la précision de la représentation des nombres. Donc on leur a fait passer un test équivalent à ce test de référence à 16 dont je vous parlais avant, pour mesurer la fameuse fraction de Weber, ce paramètre de mesure de la précision chez des Munduruku. Alors chez les adultes Munduruku, en fait, il y a quelques dizaines d'années, l'école n'était pas obligatoire chez les Munduruku. Donc on trouve des adultes qui ont été à l'école, qui ont été scolarisés, parfois jusqu'à un niveau assez élevé. Et on trouve également des adultes qui n'ont jamais été scolarisés. Donc, en faisant ces deux groupes de personnes, on a voulu voir si la scolarisation avait un effet sur la précision des représentations des nombres. Et c'est ce qu'on a obtenu. Ici, vous voyez donc les courbes du style de ce que je vous montrais avant. Vous voyez que la pente chez les adultes non scolarisés est beaucoup plus douce que la pente chez les adultes scolarisés. Cela se traduit sur la mesure de la fraction de Weber. En fait, chez les Munduruku scolarisés, la fraction de Weber est tout à fait équivalente à celle qu'on peut mesurer chez les adultes occidentaux. Et on peut aller encore plus loin, parce que en regardant les effets du cursus, en fonction du niveau de scolarisation qui a été donné à chacun, donc dans le cursus des Munduruku, dans les deux premiers niveaux, en fait, ça se concentre principalement sur la lecture, et l'arithmétique, les nombres, sont introduits qu'au troisième niveau. Et vous voyez ici les mesures des fractions de Weber, un point par participant, donc indexé par rapport à leur niveau de scolarisation. Vous voyez que tous ceux qui ont des représentations à précises, fractions de Weber élevées, sont en fait des gens de niveau d'éducation 0, 1, 2. Donc à partir du moment du troisième niveau ici, où les gens ont reçu une éducation en mathématiques, c'est vraiment à ce moment-là que la précision des nombres semble augmenter. Donc voilà, donc avec cette étude, on a pu montrer que le sens des nombres est quelque chose qui est affiné chez des personnes qui ont été scolarisées, et en particulier scolarisées en mathématiques. Voilà, donc en guise de résumé pour toutes ces recherches que vous ai présentées sur les nombres, je pense que la recherche a mis en évidence l'existence d'un sens des nombres qui est non seulement un sens des nombres, mais aussi un sens des opérations arithmétiques, donc qui permet de réaliser des opérations comme addition, soustraction, etc. Que ce sens des nombres est observé très peu de temps après la naissance, chez le nouveau-né humain, c'est ce que je vous ai montré ici, mais c'est vrai également chez d'autres espèces, donc des tests qui ont été réalisés par exemple chez le poussin, juste après l'éclosion de l'œuf, ou chez les petits poissons, pareil, juste dans les premiers jours de vie. Et chez ces espèces aussi, on voit une discrimination des nombres dès les premières heures, dès les premiers jours de vie. Et donc le sens des nombres est observé très peu de temps à la naissance, est présent jusqu'à l'âge adulte, et ce, dans des cultures qui sont radicalement différentes. Il s'affine néanmoins avec l'âge. Il semble entrer en jeu dans l'apprentissage des mathématiques, d'une façon qui reste encore, je pense, à élucider. Et il est en retour également affiné par cet apprentissage. Alors, ce qui m'a intéressée, en fait, dans ces recherches, quand j'ai commencé à m'engager dans cette voie, c'est que je pense qu'on peut toucher à des questions d'ordre philosophique et peut-être amener des éléments de réponse. Et ce que Stan n'a pas dit, c'est que j'étais musicienne, mais j'étais aussi passionnée par les maths avant de venir vers lui. Donc, je voyais dans ces études une manière d'essayer de poser des questions et d'apporter des réponses à des questions qui m'intéressait beaucoup et m'intriguait beaucoup sur les maths. Donc ce qu'on suggère, par exemple, avec ces études, à la question de savoir comment caractériser l'objet des mathématiques, on va répondre que peut-être les mathématiques sont une formalisation inspirée de ces inférences intuitives, ces inférences qu'on appelle « core knowledge » dans notre jargon de psychologue du développement. Et ce sont des inférences pour lesquelles notre cerveau a été préparé. Et il a été préparé par le système d'évolution, parce que ces inférences, en fait, nous permettent de décrire de manière adéquate le monde dans lequel nous vivons. Et alors, du coup, si on prend ce point de vue centré sur l'évolution, ça permet d'expliquer, en particulier, l'applicabilité des mathématiques au monde physique. Parce que si ces intuitions ont été sélectionnés pour justement pouvoir prédire le monde qui nous entoure de manière adéquate, en fait, les mathématiques héritent de cet aspect de ces intuitions et permettent également de prédire le monde qui nous entoure. Alors, je pense qu'il y a une autre question qui est intéressante sur laquelle on peut réfléchir, en particulier à la lumière du cours de cette année sur les inférences bayésiennes. Pourquoi donc avons-nous le sentiment que les mathématiques sont nécessairement vraies? Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être des travaux de Josh Tenenbaum que Stanislas Dehaene a présenté dans un de ses tout premiers cours, et en particulier de ce phénomène qu'il appelle la bénédiction de l'abstraction. Donc, si on considère un modèle bayésien qui est formé de plusieurs couches hiérarchiques de raisonnement, avec les idées les plus abstraites qui sont tout en haut du modèle, et au fur et à mesure on va descendre dans des idées qui sont de moins en moins abstraites, le phénomène de bénédiction de l'abstraction montre que, en fait, si vous apprenez à l'aide de ce système bayésien, vous allez apprendre très vite le niveau le plus abstrait. Et ensuite, cet apprentissage se répercute sur les niveaux moins abstraits. Donc non seulement ça s'apprend très vite, mais aussi c'est le niveau qui va être révisé en dernier si on reçoit des données qui ne vont pas avec le modèle mental qu'on a construit. Donc ce que je pense, c'est que peut-être, et ce pourrait que les mathématiques s'intéresse justement à ce niveau d'intuition qui est le plus abstrait et qui va être le niveau qui va être le plus difficilement révisé au cours de l'expérience. Voilà. Donc j'ai beaucoup parlé des nombres et maintenant je vais m'intéresser à mon deuxième sujet de recherche qui est la géométrie. Alors ici, une branche très particulière de la géométrie, ce qui m'intéresse, c'est la géométrie euclidienne, c'est métrique. Donc celle qui repose sur les mesures d'angle et les mesures de longueur. Alors pourquoi regarder la géométrie ? D'abord, c'est un autre modèle des mathématiques, mais aussi la géométrie est en fait, d'un point de vue évolutif, avoir accès à des connaissances de type géométrie pourrait présenter un certain nombre d'avantages dans des situations variées. Par exemple, pour ce qui est navigation, en espace ouvert, pour pouvoir retracer, intégrer le chemin que vous avez fait dans cet espace et éventuellement retracer vos pas pour vous retrouver sur votre nid. Que ce soit aussi en espace fermé, ici par exemple pour prendre en compte la forme de cette pièce, pour se retrouver dans cette pièce, ou aussi à des échelles qui sont beaucoup plus petites. Donc, reconnaissance d'objets par leur forme ici, ou encore actions qui sont guidées par la forme des objets. Alors, dans une première étude, on a voulu montrer s'il existait, comme pour les nombres, un fondement universel pour la géométrie. Donc, c'est une étude qui a été réalisée également avec les Munduruku. Donc, les Munduruku ne recevant pas d'instructions scolaires en géométrie. Alors, l'étude... La question qu'on pose était sous une forme assez simple. On montrait aux participants des diapositives qui contenaient chacune 6 images comme ça. Et on leur demandait, sur chaque diapositive, il y avait 5 images qui partageaient une propriété géométrique commune, ici des quadrilatères, et une image qui ne partageait pas ces propriétés. Et on demandait simplement aux gens de nous dire quelle était, selon eux, l'image qui était la plus différente par rapport aux autres, ou belle ou laide. Donc on a essayé plusieurs manières de poser la question pour les Munduruku. Il semble que laide, c'était une bonne façon de leur poser cette question. Alors ici, on avait 45 diapositives différentes qui chacune s'intéressait à une propriété différente de la géométrie. Je vous en ai montré juste quelques exemples ici. Donc ici, un triangle par des quadrilatères. Ça, c'est une diapo qui s'intéresse au parallélisme. Ici, le centre d'un cercle. Et ici, celle-ci est peut-être un petit peu plus difficile. On a une relation de translation, en fait, sur toutes ces images, sauf celle-ci. Ces deux petits triangles sont dans une relation de symétrie l'une par rapport à l'autre. Alors, en faisant ce test, ce qu'on a vu dans un premier temps, on a vu que les Munduruku étaient au-dessus du niveau de la chance. Donc, ils arrivent à répondre à ces questions-là. Mais ce qui est plus important encore, c'est qu'on avait une corrélation entre la performance des participants Munduruku et des participants des États-Unis. C'est-à-dire que les essais qui étaient les plus difficiles pour les Munduruku restaient les plus difficiles pour les participants aux États-Unis, même si ces participants, eh bien évidemment, avaient reçu une instruction en géométrie. Je vous montre les données ici. Vous avez un petit point pour chaque essai qu'on a réalisé. chez des enfants et chez des adultes. On compare ici les données Munduruku en abscisse et les données des États-Unis en ordonnée. Et vous voyez que c'est vraiment flagrant chez les enfants. Les essais qui sont les plus faciles pour les Munduruku sont aussi les plus faciles pour les enfants états-uniens. Les essais qui sont les plus difficiles pour les Munduruku sont aussi les plus difficiles pour les enfants états-uniens. On a la même chose chez l'adulte. Chez l'adulte, évidemment, les états-uniens sont globalement ont des performances plus correctes, un meilleur niveau de performance que les Munduruku. Mais il n'en reste pas moins que, même malgré toute l'éducation qu'ils ont reçue en géométrie, les essais qui étaient difficiles pour les Munduruku restent également plus difficiles pour ces adultes des États-Unis. On a également refait cette étude avec un très large panel de participants, un très large groupe de participants aux États-Unis, donc des enfants, quatre groupes d'enfants âgés de 3 ans à 17 ans, comparés à des adultes toujours aux États-Unis. Vous voyez le même phénomène de corrélation, donc on a une continuité dans le développement. Ces essais qui sont difficiles pour le Munduruku sont aussi ceux qui sont difficiles pour les enfants de 3 à 5 ans et restent difficiles tout au long de la vie. Alors, cette étude qui nous a montré qu'il existait donc un fondement universel pour la géométrie ne nous permet cependant pas de dire quels sont les aspects de la géométrie qui sont encodés de manière universelle ou pas. Donc, on a fait une deuxième étude qui, elle, va s'intéresser de manière plus concentrée à certains types de propriétés géométriques. Donc c'est la même question qu'on pose aux participants. On leur demande, on leur présente ces images et on leur demande de trouver laquelle est différente par rapport aux autres. Alors on s'est intéressé à trois propriétés géométriques. Ici vous avez une image qui porte sur l'angle. Donc toutes celles-ci ont le même angle. Celle-ci a un angle différent. Ici une image qui porte sur la longueur. Donc vous voyez tout ceci à une rotation près, c'est la même image. Celle-ci est plus petite. Et troisième propriété, une propriété géométrique qu'on appelle le sens, qui est en fait une propriété qui distingue une image par rapport à son image miroir. Et là, si vous cherchez à aligner mentalement tous ces objets, vous verrez qu'ils s'alignent bien les uns sur les autres, sauf celui-ci, la branche la plus courte n'est pas dans le bon sens, en fait. Elle devrait être vers le bas pour que ça puisse s'aligner. Donc voilà, donc ces trois propriétés. Et pareil, on a fait passer cette expérience à des participants d'âge très varié aux États-Unis, également à des groupes de Munduruku, enfants et adultes. Et là, on a pu voir apparaître un tableau de performance qui était très stable, à savoir que chez tous ces groupes, l'angle et la longueur sont les deux propriétés les plus faciles. Par contre, le sens est beaucoup plus difficile. En fait, le seul groupe qui fait attention au sens dans cette tâche, c'est le groupe d'adultes aux États-Unis. Même les enfants de 9 à 11 ans ne font pas attention. Et c'est intéressant parce que, en fait, justement, l'angle et la longueur sont les deux propriétés qui définissent la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne est une géométrie non orientée, donc qui ne s'attache pas au sens. Et ce que ces études suggèrent, c'est que la perception visuelle est en fait une perception qui donne la géométrie euclidienne. Voilà, donc un tableau de performance universel et stable. Alors, à partir de cette première étude, en fait, je vais prendre l'angle comme cas d'étude pour essayer de poser les mêmes questions qu'on a posées à propos des nombres au début de cet exposé. Donc, les représentations des angles possèdent-elles ces propriétés qui ont été démontrées à propos des nombres. Alors, je vous ai parlé ici de deux propriétés, continuité dans le développement et universalité, donc dans des cultures très différentes. Mais je vais vous parler maintenant, on peut se poser la question si le bébé perçoit les angles de manière très précoce, si cette représentation des angles est abstraite, donc par rapport au format des stimuli. Et est-ce que les bébés, les jeunes enfants, ont la possibilité de réaliser des inférences, donc des calculs sur les angles? Alors, perception des angles chez le bébé. Alors, voici une expérience qui a été réalisée chez des nouveau-nés par Slater dans les années 90, qui montre que le nouveau-né, déjà, a une certaine perception de l'angle. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il commençait par familiariser le nouveau-né avec des images, comme ça, avec un angle constant, qui est présenté dans différentes orientations. Et ensuite, on avait une deuxième phase de test, où on présentait ce même angle dans une orientation qui est nouvelle par rapport à celle-ci, et contrasté par un autre, par rapport à un autre angle. Et les nouveau-nés, donc quelques jours de vie seulement, ont été capables de généraliser ces angles qu'ils ont vus en familiarisation par rapport à ce nouvel angle. Donc on a une perception des angles. Évidemment, c'est une expérience ici qui présente un faible taux d'invariance, parce que tout ce qui varie ici, c'est juste l'orientation, mais c'est déjà un bon début. Voici par contre une autre expérience qui a été réalisée par Arlette Stréry au laboratoire, où là on se situe à un niveau d'abstraction beaucoup plus grand, où en fait elle a montré que les bébés étaient capables de repérer des correspondances de forme entre la modalité tactile et la modalité visuelle. Donc le bébé était d'abord familiarisé dans la modalité tactile, on lui donne à saisir un de ces deux objets, soit un cylindre ici, soit un prisme ici avec une section triangulaire. Et dans une deuxième phase, on lui demande de reconnaître cet objet dans la modalité visuelle. Donc ici, vous avez les deux objets qui sont situés de part et d'autre. Et on laisse le bébé choisir de regarder plutôt cet objet ou plutôt cet objet. Donc ici, on démontre que les bébés sont sensibles à l'angle. Alors, c'est pas le même angle qu'au-dessus ici. C'est de la mesure de l'angle, donc un angle de mesure 45, par exemple, par rapport à un angle de mesure 135. Ici, on ne peut pas prétendre que le bébé ait mesuré l'angle sur ce prisme, mais ce qu'il a pu discriminer, c'est une forme angulaire par rapport à une forme lisse, un angle par rapport à une courbe. Donc c'est une propriété d'une géométrie qui n'est pas nécessairement euclidienne, peut-être une géométrie projective, mais tout de même une propriété de géométrie. Alors, existe-t-il des représentations abstraites de la mesure de l'angle ? Alors, voici une tâche où on a posé cette question, où ici, le degré d'abstraction, c'est entre des stimuli qui sont en deux dimensions, donc des dessins sur une feuille, par rapport à des stimuli qui sont en trois dimensions, donc dans l'environnement. Il s'agit d'une tâche de lecture de cartes. Donc cette tâche a été réalisée par les Munduruku. Vous avez ici trois boîtes de conserve qui sont disposées dans l'environnement et qui forment une figure géométrique comme celle-ci. Et ce qu'on fait, c'est qu'on montre aux participants une carte, donc évidemment une feuille de papier sur laquelle sont dessinés des symboles qui réfèrent à ces trois boîtes de conserve, et qui reproduisent les propriétés géométriques de cette figure formée par les boîtes ici. Et donc on regarde si le participant est capable de généraliser les propriétés géométriques de cette carte aux propriétés géométriques de son environnement. Alors ça a été réalisé chez les Munduruku, ensuite appliqué à des enfants d'âge préscolaire aux États-Unis, avec deux types de figures, soit des figures comme ça avec un élément qui était différent, qui pouvait servir d'indice pour aider la mise en correspondance de ces deux stimuli, soit des figures comme ceci, où tous les éléments sont identiques. Donc le seul type d'indice qui permet de retrouver la correspondance ici, c'est la géométrie. Et en fait, il se trouve que les Munduruku, ces jeunes enfants, sont tout à fait capables de réaliser cette tâche. Vous avez ici les pourcentages corrects pour ces différentes situations dans lesquelles on les a plongés. Le niveau de la chance, c'est 1 sur 3, donc 33%. Et dans tous ces cas, les Munduruku, les jeunes enfants, sont au-dessus du niveau de la chance. Donc les Munduruku, comme les jeunes enfants, sont capables de détecter des correspondances géométriques entre des stimuli 2D, géométrique métrique entre des stimuli, une carte 2D et un arrangement en 3D. Mais évidemment, donc je reviens à mon exemple, ce qui était celui de l'angle. Ici, on ne sait pas s'ils ont vraiment détecté les correspondances en angle. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un angle qui variait, dans ce type de présentation, en fait, dès qu'un angle varie, automatiquement, la longueur va varier en même temps. Donc on ne sait pas si les gens pour résoudre la tâche, ont plutôt fait attention à la longueur ou aux angles. Donc pour répondre à cette question, on a développé une variante de cette tâche de lecture d'angle, de lecture de carte, qui est une lecture de carte fragmentée. Donc le principe est à peu près le même. On a ici dans l'environnement un grand triangle et on va placer deux pots dans deux des coins du triangle, donc ici et ici. La tâche de l'enfant, c'est d'aller disposer un jouet, donc cette petite grenouille là, sur un des deux pots qu'on va lui indiquer, et on va le lui indiquer en se servant d'une carte. Alors dans certains essais, on se sert de la carte entière, donc c'est une situation analogue à la situation que je vous ai montrée juste avant. Mais dans d'autres essais, qui sont les essais cruciaux, au lieu de montrer la carte en entier, on va d'abord la découper comme ça autour des coins, découper autour de ce coin-là et découpe autour de ce coin-là, pour montrer simplement ces deux fragments et indiquer à l'enfant où se rendre à l'aide simplement de ces deux fragments. Donc ici, on a isolé l'information d'angle par rapport aux autres informations qui étaient dans la carte. Il n'y a plus d'information de longueur ici. Alors, on a réalisé cette tâche avec deux groupes d'enfants. Ici, un groupe d'enfants qui vont sur leurs 4 ans et demi. Vous voyez les performances pour la carte en entier. Donc, on réplique l'étude précédente. Ils sont capables de lire cette carte, mais ils sont également capables de lire ces fragments. Donc, à 4 ans et demi, il y a une représentation abstraite de l'angle, angle entre ces surfaces ici et angle dessiné sur une feuille ici. Alors, on avait aussi... On avait aussi un groupe plus jeune d'enfants qui, eux, viennent d'avoir leurs 4 ans. Et en fait, les résultats sont contrastés par rapport au premier groupe. Sur la carte en entier, ils y arrivent, mais ils n'y arrivent pas, ils n'utilisent pas les indices d'angle. Quand on leur présente les fragments avec seulement l'angle, là, ils n'arrivent pas à résoudre cette tâche. Donc, il semble ici qu'il y ait un développement qui ait lieu au cours de la 5e année, que la représentation abstraite des angles apparaisse à ce moment-là, une représentation commune aux stimuli en deux dimensions et en trois dimensions. Alors, qu'en est-il maintenant du calcul sur les angles? Alors, voici une autre tâche qu'on a proposée également au Mundoroku, qui est une tâche, un petit exercice géométrique de complétion d'un triangle. Dans cette tâche, on montre deux angles, comme ça, qui forment la base d'un triangle à des participants, et on leur demande d'estimer le troisième angle du triangle. Et ils donnent leurs estimations soit en plaçant leurs mains comme ça, de manière à dessiner un angle avec leurs mains, soit en utilisant un appareil qui a été fabriqué par Stanislas Dehaene, une espèce de petit goniomètre qui est placé sur la table. Alors, d'un point de vue formel, cette tâche revient à avoir un triangle comme ça, où on donne les deux angles à la base alpha et bêta, et on donne la longueur de la base C. Et donc, il faut retrouver le troisième angle qui est gamma. Alors, on a posé la tâche dans deux environnements. Ici, une figure qui est plane. Ici, une figure qui est dessinée sur une sphère. Alors, en géométrie plane, quand on a ce problème à résoudre, en fait, il y a une propriété de la géométrie euclidienne qui est que la somme des trois angles d'un triangle vaut toujours 180. Donc on a un petit point pour chacun des problèmes qu'on a posés aux participants. Si on reconstruit la somme des trois angles, donc les deux angles donnés plus l'angle qui reste à estimer, on va avoir, elle va rester au niveau de 180. Par contre, quand on se situe sur la sphère, ici, vous voyez que les droites qui constituent le triangle en fait, suivent évidemment la courbure de la sphère, ce qui fait que le troisième angle ici est un petit peu plus aplati par rapport à l'angle qui se trouvait ici. En fait, c'est une propriété de la géométrie sphérique. En géométrie sphérique, la somme des angles est plus grande que 180 et elle dépend en fait, de la taille du triangle. Donc ici, tous les essais qu'on va leur poser vont se trouver comme ça dispersés entre une somme de 180 et une somme de 180 degrés. Alors, voici les données qu'on a obtenues avec, chez les Mundoroku avec des adultes, des enfants. Et on a également posé la même tâche à des adultes aux États-Unis et à des enfants en France. Vous voyez que les données qu'on obtient suivent de près les prédictions de la géométrie euclidienne. Et en deux points, D'abord, quand vous regardez les petits points bleus ici qui correspondent en plan, au plan, vous voyez que les données s'agrègent, convergent autour de 180 degrés, d'une somme de 180 degrés ici. Et deuxièmement, vous voyez aussi que les points rouges qui correspondent à la sphère sont plus modulés, la somme est plus importante et elle est plus modulée en fonction des essais par rapport à la situation du plan. Alors, on a voulu savoir quelle était la trajectoire développementale pour cet exercice. Donc, on a posé le même exercice à des enfants plus jeunes aux États-Unis. Donc, les enfants précédents avaient 7 ans et plus. Ceux-ci ont 5 ans et 6 ans. Et on a vu, là, dans ce groupe un peu plus jeune, qu'on ne retrouvait pas ces propriétés de la géométrie euclidienne. Donc, pas de convergence sur 180 degrés pour le plan. Et pas de modulation entre l'exercice sur le plan et l'exercice sur la sphère. Alors, les enfants ont des réponses qui ne sont pas justes du point de vue de la théorie euclidienne, mais on ne peut pas pour autant dire qu'ils ont fait n'importe quoi, parce qu'en fait, ils ont appliqué une heuristique très précise, qui est que quand on leur donnait ce triangle comme ça, avec l'angle gamma à estimer, au lieu d'utiliser les angles alpha et bêta comme le prédit la théorie euclidienne, ils ont tout simplement utilisé cette longueur ici. C'est-à-dire plus la longueur est très grande, plus ils me donnaient un angle qui était important, plus la longueur était petite, plus ils me donnaient un angle qui était petit. Alors c'est peut-être vrai en général dans le monde, mais il se trouve que dans le test qu'on avait construit, on avait fait attention à ce que ce n'était pas toujours le cas. Donc quand cette longueur était grande, l'angle n'était pas forcément plus grand. Voilà, donc ici, en fait, on a aussi une trajectoire développementale. On a deux conclusions. D'une part, le fait que la capacité de réaliser ces calculs soit présente de manière universelle, donc dans des cultures qui sont très différentes. Et d'autre part, le fait qu'elle apparaisse relativement tard dans l'enfance, donc à partir de l'âge de 7 ans. Voilà, donc pour résumer cette partie sur la géométrie et plus particulièrement sur les angles, ce que je vous ai montré, c'est qu'on a au départ une capacité à percevoir les angles sur les formes visuelles qui est présente de manière très, très précoce et qui est stable au cours du développement et que cette capacité s'élargit peu à peu pour d'une part prendre en compte d'autres supports des angles, donc les angles entre les surfaces, et d'autre part, réaliser des calculs sur les angles. Et donc, dont je vous ai parlé pour les nombres, c'est qu'il y avait une certaine stabilité au cours du développement. On peut se demander si on peut trouver des traces de cette dissociation précoce entre 2D et 3D chez l'adulte. Alors ici, je ne vais pas vous montrer une expérience, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Donc ceci, c'est un tableau que vous pouvez trouver, que j'ai vu dans le musée du Louvre, une salle qui retrace l'histoire du Louvre. Et alors vous savez peut-être que originellement, en fait le Louvre c'était deux bâtiments, d'une part le Louvre, vraiment le château du Louvre ici, avec la cour carrée, et d'autre part le château des Tuileries qui est aujourd'hui disparu, qui était le long du jardin des Tuileries. Et très vite, l'idée est émergée de rejoindre ces deux bâtiments. Donc, il y a un premier mur qui a été construit ici sous Henri IV, qui rejoignait les bâtiments d'un côté. Et ensuite, sous Napoléon, le projet a été repris pour rejoindre le Louvre et les Tuileries de l'autre côté. Et alors, ici, vous avez un exemple de plusieurs projets qui ont été proposés par des architectes. Et vous voyez peut-être qu'il y a un problème qui se posait à ces architectes, qui les chagrinait beaucoup, qui était que en fait, le Louvre et les Tuileries n'étaient pas bien alignés. Donc les Tuileries sont un petit peu pas tout à fait horizontales sur ce schéma. Et donc les architectes ont proposé tout un ensemble de projets pour un petit peu réussir à gommer ce côté ingrat du manque d'alignement. Donc on a des projets qui ici utilisent des courbes pour masquer la perception des angles. Vous avez ici un projet qui introduit un mur d'épaisseur variable pour rétablir le parallélisme. Ici, un autre projet où on a un mur qui n'est pas droit, qui est cassé en deux, donc vertical ici, et puis un petit peu oblique ici. Donc tout un tas de projets pour masquer cet angle disgracieux ici sur ce côté, qui n'est pas un angle droit. Bon, il se trouve que Napoléon, en fait, ça ne l'intéressait pas tant que ça. Tout ce qu'il voulait, c'était une grande cour pour faire des manœuvres militaires. Et donc, le projet qui a été retenu, en fait, ne masque pas du tout l'angle. Et donc, moi, j'ai été assez surprise en voyant ça, parce que je passe quand même assez souvent sous le Louvre, et je n'avais jamais remarqué. Donc, en sortant du musée, je suis allée voir cet angle. Ça se voit quand on le sait. Ça ne se voit pas sur la photo ici. Mais c'est beaucoup moins flagrant que ce qu'on voit sur ce genre de schéma. Donc, je me demande si ici, on a une illustration de ce cas de dissociation entre la perception de l'angle en deux dimensions et l'angle en trois dimensions chez l'adulte. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ces recherches, celles qui m'ont aidé à faire cette présentation. Et évidemment, je remercie tous les participants, toutes leurs familles et bien sûr toutes les personnes qui ont aidé ces recherches d'une façon ou d'une autre. Voilà.